Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour cette nouvelle émission de La Lorgnette. Une 35e et d'ailleurs la dernière de l'année, car on va passer, et ouais, Valérie, c'est comme ça, on va passer à la grille d'été dès la semaine prochaine, après la fête de la musique qui va se tenir mardi soir. Et d'ailleurs, on entendra La Lorgnette à l'occasion de cette fête de la musique vous proposer une magnifique playlist, n'est-ce pas, Héloïse ?
Oui.
Tu vas bien ?
Ça va, et toi ?
Ça va super.
Et vous ?
Oui, ça va. Valérie ?
Super, la grosse pêche.
D'accord, mais il y a tout le monde aujourd'hui.
Mais oui.
Salut, Pauline.
Salut tout le monde.
Oh, Pauline, tu satures. Salut Nico.
Salut.
T'as une angine ?
T'as une angine ? Et non, Nico nous a lâchement abandonnés pour la dernière de l'année. Ouais, c'est pas beau, hein. Donc du coup, c'est Salomé, notre stagiaire, qui va le remplacer. Ça va, Salomé ?
Ça va très bien.
Alors, ton livre t'a plu ? Tu peux répondre ?
Oui,
tu n'as pas lu de livre. On a également Audrey avec nous. Salut Audrey, on va te faire passer le micro.
Salut.
Donc qui est stagiaire d'Héloïse, il n'y a que des stagiaires. Quand tu veux, tu amènes la tienne de stagiaire Valérie.
Oui, mais elle est très timide.
D'accord. Pauline, pareil. Hein.
Ok.
pour cette dernière, avant les vacances, qui dit vacances, dit voyage. Ça
dit voyage, dit destination exotique ou pas, en tout cas dit bouger et s'évader un peu.
Eh bien, c'est bien parce que c'est le thème que tu nous as trouvé voilà. Pour cette dernière émission. Et tu vas commencer par nous présenter un livre.
Oui, je vais commencer par un livre qui s'appelle Sally Jones de Jacob Wigelius. C'est un auteur suédois et c'est aux éditions Thierry Magnier. Alors, c'est un livre pour ados, mais les adultes aussi peuvent très bien apprécier. Donc en fait, Sally Jones, c'est une jeune femelle gorille qui est assez incroyable parce que bon, déjà elle porte une salopette, une casquette, elle sait lire, écrire, elle comprend le langage des hommes et elle travaille comme mécanicienne sur un bateau avec son maître et ami, le marin Henri Koskela. Donc elle est très douée, elle apprend très vite les choses, elle est très manuelle, c'est un sacré singe. Donc ils mènent tous les deux une vie assez tranquille et heureuse. Ils ont un bateau tous les deux et ils vivent au gré du travail qu'on leur donne, des livraisons, etc. Donc c'est plutôt tranquille comme vie. Elle est très heureuse comparée à ce qu'elle a vécu avant. C'est quelque chose de tout à fait tranquille. Mais malheureusement, tout bascule alors qu'ils sont dans le port de Lisbonne. Le maître est accusé injustement de meurtre et il se retrouve en prison pour au moins 10 ans. Et Sally Jones s'est traquée elle-même pour qu'on la tue ou qu'on la mette dans un zoo. Voilà, et il est accusé donc injustement. À partir de ce moment-là, la jeune gorille, elle se retrouve livrée à elle-même dans Lisbonne. Donc c'est très dur pour elle. Et elle va en fait, comme elle est très intelligente, elle va partir dans une quête pour innocenter son maître et ami. Donc elle va beaucoup voyager, elle va rencontrer une foule de personnages en Égypte, en Arabie, en Inde. Elle va rencontrer donc des gens très sympathiques et d'autres un peu moins. Et donc c'est vraiment une grande quête, une grande aventure. Et c'est très agréable à lire et ça fait vraiment voyager.
C'est une fiction.
Bah non, Sally Jones a vraiment existé.
C'est son autobiographie en fait, c'est Sally Jones par Sally Jones.
Mais c'est Sally Jones qui écrit effectivement, qui écrit. Oui, elle sait écrire et donc son maître lui a offert une machine à écrire et donc c'est la première personne. Oui.
Donc c'est pas une fiction.
N'importe quoi.
Et c'est pas mais parce que c'est évidemment c'est une fiction, quoi, mais hein. Voilà, est-ce qu'on parle pas de fiction souvent quand même.
Non, mais ça pourrait être son maître qui raconte une histoire ou quelqu'un qui a travaillé dans un zoo qui extrapole des événements qui sont quand même déroulés.
Non, c'est vraiment une véritable fiction. Ce qui n'empêche que c'est une aventure très très prenante, c'est même haletant. On a envie de savoir voilà si Sally Jones va réussir. Si elle va s'en sortir, c'est génial, c'est parfait pour les vacances. Et c'est un livre qui a d'ailleurs obtenu un prix très prestigieux en Suède qui s'appelle le prix Auguste. Et donc, c'est un livre très beau. En plus de ça, il y a pas mal de dessins à l'intérieur. Il y a des portraits donc, de tous les personnages. C'est un dessin un peu vintage, un peu dans l'esprit marin, tatouage. C'est assez sympa. Et donc, ça serait à partir de 12 ans, je dirais, pour des bons lecteurs et jusqu'à l'âge adulte. Parce que
c'est un gros livre. Hein.
Oui, mais bon, c'est écrit gros. C'est, voilà, et c'est, comme je te dis, c'est hyper palpitant. Donc, pourquoi pas, à 12 ans, des bons lecteurs peuvent tout à fait le lire jusqu'à l'âge adulte. Pour les adultes qui aiment la bonne littérature jeunesse, parce que c'est vraiment un très bon livre qui fait voyager. Donc.
D'accord, voilà. Pour les vacances.
Ça a l'air chouette.
Mmh. Et en parlant de tatouages, comme les dessins qui ressemblent, on a un ami à Angoulême qui fait des tatouages.
Oui, Valère Tatou.
Valère Tatou. mais c'est une autre histoire, ça. Ok, donc Sally Jones, c'est à quelle maison d'édition ?
Les éditions Thierry Magnier.
D'accord, super.
Voilà.
Excellent. Et Louise qui a bien travaillé pendant ces deux semaines. Bon, il faut dire qu'elle a loupé quelques émissions aussi, donc il fallait qu'elle se rattrape.
Bien qu'elle se rattrape.
Et qui a trois livres à présenter, donc ça c'est bien. Contrairement à certaines personnes qui en ont qu'un, n'est-ce pas Pauline ? Valérie, toi qui en as deux.
Tout à fait, parce que j'ai quand même bien travaillé aussi. Oui. Je vais vous parler donc d'un livre qui nous fait voyager dans la montagne. Et je vais vous laisser deviner la fin du titre de mon livre. C'est à l'assaut du Kili.
Du Kili.
Bah, c'est pas le Manjaro alors ?
Non, c'est pas le Kilimanjaro. C'est à l'assaut du Kili. C'était la transition que je voulais que Nicolas me fasse. Tant pis. Il est pas là.
Et pourquoi c'était pour Nico cette
blague ? Parce qu'il aurait trouvé de suite Kilimanjaro et il m'aurait donné l'altitude exacte, le nombre de personnes.
Il t'aurait raconté qu'il a fait en étant jeune.
À main nue, avec juste une peau de phoque sur les fesses.
Ouais. Non, ça c'était le 48e d'il y a
10 ans. Ah oui, il paraît qu'il le refait pour les 10 ans. Ouais. Tous les soirs à partir de minuit, place Chaptal.
C'est ça.
Nico et sa peau de phoque. Donc, à l'assaut du Kili, et non, ce n'est pas le surnom du mont Kilimanjaro donné par les amoureux du Kilimanjaro, qui l'ont appelé Kili, c'est bien le nom d'un sommet découvert donc lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui est estimé à aujourd'hui à plus de 13 000 mètres, soit le plus haut du monde après l'Everest. Il a été l'objet d'une première mission de reconnaissance britannique en 1947, amenée par le valeureux Trotter. Et donc, c'est le livre dont je vous parle.
Mais dis-moi, c'est une fiction.
c'est mes questions, ça, Héloïse. Valérie, c'est une fiction.
Eh bien...
On ne sait pas.
On hésite encore. Son rapport d'expédition décrivait le Kili comme un sommet extrêmement difficile, voire périlleux, mais dont l'ascension n'était pas impossible. C'est donc une équipe de 7 hommes, 7 montagnards aguerris qui se lancent dans l'aventure. 13 000 mètres, quand même. Le chef d'expédition, narrateur de l'histoire, surnommé Trait d'Union, est un grand optimiste, intimement convaincu de vivre une aventure exceptionnelle et d'être entouré de compagnons de confiance et de bonne volonté. Il trouve une explication rationnelle, avec une rationalité bien personnelle, au comportement douteux de ses compagnons d'aventure. Donc on trouve un guide perpétuellement perdu, un médecin perpétuellement malade et un interprète perpétuellement incompris des autochtones. Un cuisinier pang à la cuisine si désastreuse que l'équipe tente de l'abandonner dès le premier poste, à peu près 1000 mètres d'altitude. Donc ils sont tous, les 7 désastreux montagnards, grands amateurs de spiritueux. Le champagne va rythmer leur expédition comme récompense à chaque mètre parcouru. Il y a également 3000 porteurs yogistanais, puisque je ne voulais pas préciser, mais le mont Kili se trouve au Yogistan. Donc eux, par contre, sont fortement portés, non pas par le spiritueux, mais par la renégociation perpétuelle de leurs prestations. Ils sont petits, ont une énergie hors norme, et tout va bien se passer. L'expédition va suivre son cours. Aucun membre du groupe est vraiment dans le rôle qu'il devrait être, sauf le leader, qui lui donc est le narrateur, Trait d'Union, qui va nous décrire donc le récit avec toute la certitude qu'il a que tout va bien se passer. Tout se passe effectivement très bien, compte tenu de l'équipe pitoyable qu'il a. Donc on va de rebondissement en rebondissement. Dès le premier jour, ils tombent dans une crevasse. Évidemment, ils sont sortis de la grâce au porteur et à l'aide de bouteilles de champagne. On est, bien sûr, vous l'aurez compris, sur une fiction. Et c'est une très bonne parodie des récits d'expédition en montagne. Ça pourrait être, si on enlevait Kili Kili, qu'on le remplaçait par Kilimanjaro, qu'on enlevait 13 000 mètres par tout ça, les 30 000 porteurs. Non, c'est 30 000 porteurs. 3 000 porteurs, c'est le champagne. 30 000, enfin, abusé. Voilà, donc c'est très très drôle. C'est du Monty Python à lire.
C'est ce que j'allais te dire, Louise. C'est un peu le Vacances à Honolulu, version hiver.
Oui, voilà. Après, il y a beaucoup d'absurdes dans ce livre c'est vraiment très drôle. Mais en même temps, comme tu disais, ça reprend tous les codes, effectivement, du récit de montagne avec toujours un moment donné, ça va pas. Un moment donné, c'est vraiment chouette.
Le narrateur, lui, par contre, il est à fond là-dedans. Il se rend pas compte que les 6 autres montagnards, ils se rient de lui. Il essaye de faire des binômes dans les tentes pour. Il dit voilà, ben tiens, eux, ils ont le même sujet de conversation. Je vais les mettre ensemble. Alors qui se détestent, enfin, et tout est la seule chose qui va lui donner de la motivation au narrateur, c'est qu'il s'intéresse énormément à la vie privée, à savoir il veut connaître les fiancés des 6 montagnards. Et ça, mais alors c'est son obsession, mais c'est drôle, mais c'est ça pourrait être un vrai récit. Et si bien que quelqu'un parmi vous dans cette salle, dans cette pièce, m'a demandé, mais ça existe vraiment le Kili Kili? Je ne citerai pas de nom.
Et toi aussi, tu t'es demandé au début.
Aussi.
D'accord, tu peux bien me jeter la pierre, mais...
J'avais pas cité de nom.
Ah, mais je veux bien me dévoiler, pas de souci.
Ouais, je croyais que tu parlais de moi.
C'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment très, très drôle et c'est vraiment à lire au second degré, de la page 1 à la page, je ne sais pas combien il y a de pages.
Oui, et c'est un livre qui est publié dans une très sérieuse collection de voyages, d'ailleurs, de récits de voyage, donc...
Je suis un peu déçu que tu nous lises pas un passage drôle de ce livre.
Bah, comment te dire, drôle, c'est vachement.
C'est subtil.
C'est assez subtil. Attends, ding ding ding.
Kili Kili, la subtilité, tu me.
Si, tu vois, finalement, tiens sur.
Boum.
Alors, il descendit donc, et je remontai bientôt le message suivant. Pile pas encore installé. Sont emballés dans une des caisses, mais burlés, ne sait pas laquelle. Envoyé champagne. Donc ça, c'est un premier message.
D'accord, donc il y a pas mal de jeux de mots aussi, de jeux avec le langage. Ouais.
Ouais. Ensuite, donc, il envoie les premières bouteilles de champagne, et des deuxièmes, ils échangent les messages et on arrive là. Je ne perdis nullement pas de temps à répondre à leur dernière et pressante requête et je leur adressai avec le champagne une nouvelle demande d'instruction. Leur message suivant déclaré, Jungle pris de convulsion, envoyé prone avec 5 bouteilles de champagne. Voilà, c'est... Ça pourrait être très sérieux, mais c'est...
Tu n'as pas fait un stage de conte, parce que je trouve que tu lis vachement bien.
Ouais. N'est-ce pas?
Ouais, c'est bien. Hein. Ok, à conseiller pour les vacances aussi, ça se lit très vite, j'imagine.
Ouais, non, ça se lit normalement. C'est,
ça veut dire qu'elle n'a pas fini.
Si. Je l'ai fini il y a une dizaine de jours déjà.
Donc je dis ça parce que moi je fais des efforts pour finir mes livres, donc j'aimerais bien que ça soit pareil dans,
oui, n'est-ce pas,
dans cette salle. Ok, Kili Kili.
C'est vraiment super, c'est chez Petite Biblio Payo Voyageur.
Ok, ouais. Génial. On a le temps de poursuivre ces présentations de livres.
Oui.
Audrey, tu voulais nous présenter un livre? Non, non. Salomé non plus? Non. Ok, Pauline,
ouais.
Tu as gagné.
J'ai gagné, bah super. Alors moi on n'est pas dans la fiction pour le coup. Moi je vais vous parler de Tour du monde des terres françaises oubliées. C'est Bruno Fuligny. Donc, c'est pas n'importe qui. Hein. Il est bon écrivain, historien. Il adore tout ce qui est un petit peu insolite, les aventures humaines. Voilà, j'ai lu beaucoup Chasseurs de curiosités. Et c'est surtout un haut fonctionnaire. Il est quand même responsable de la mission éditoriale de l'Assemblée nationale, maître de conférences à Sciences Po. Il a écrit énormément de livres, une vingtaine sur l'histoire politique.
C'est un glandeur un peu. Quand
ouais,
même.
Voilà. Bon, hein,
Il nous le fait pas, on les connaît. Hein.
Donc voilà, déjà, c'est pas écrit par n'importe qui. Et donc, il nous a écrit un livre qui parle de la France. Mais alors, je sais pas si vous le savez, la France, déjà toutes ses
côtes. A gagné ses 2 matchs. Ouais, on le sait. Non, c'est pas ça.
Tu es peut-être la seule personne ayant regardé le match.
Non, oh, tu ça. Rigoles ou quoi?
Non,
je les regarde tous.
Héloïse,
j'ai regardé en lisant, au bouquin. Ouais.
Voilà. Ah, t'es la seule personne qui les a pas regardés.
Ouais, j'avoue.
Ouh.
Mais ça, vous savez pourquoi? C'est qu'elle avait pas lu ses livres et qu'elle était à la ramasse. Alors, recommence, j'ai rien
non,
lu.
Non, le seul truc qui a fait me faire regarder, c'est quand j'ai su qu'il y avait un joueur qui s'appelait Kant. Et je me suis dit, oh, c'est peut-être le philosophe, son petit-fils, tout et ça, non. Mais non,
Kanté.
Rien à voir. Ah, c'est Kanté.
Il a l'air très sympathique tout de même.
Oui. Il y a un joueur en Roumanie qui s'appelle Ra.
C'est vrai.
Je trouve ça cool.
Comme le dieu du soleil ?
Non, comme l'animal.
Ah, ok.
Et un joueur au Brésil qui s'appelle Hulk.
Hulk, comme l'Avenger. Ah,
mais ça, c'est pas son vrai nom, en fait. C'est, ils ont le droit de choisir des surnoms, comme ils ont des noms à rallonge et qui se
et
ressemblent souvent.
Et il a choisi ce surnom-là, il est très modeste.
Ouais. Ah oui, 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 c'est pas mal, même comme choix. Oui.
Pauline, si tu veux reprendre le contrôle de ta chronique, c'est maintenant.
Ça va casser un peu le truc, quoi.
Bon, Joël Batz.
Ah, oui, ça m'a fait penser.
Vu qu'on parle de foot, c'est le moment, Valérie.
Vous pouvez voyager en lisant le livre de Joël Batz, Gardien de ma vie, édition illustrée de 1984.
Je me demande si les ventes ont explosé depuis... Je pense. Bon, on revient à la France,
on repasse la main à ses côtes.
Allez, voilà. Parle-nous de Bruno. En fait, voilà, la France, elle a le deuxième domaine maritime au monde. Rien que les côtes françaises, déjà, c'est... Mais si.
J'ai rien
mais
dit.
Un domaine maritime, du coup, c'est quoi c'est,
alors, c'est les côtes, en fait. C'est tout l'espace côtier qui appartient à la France.
En kilométrage, voilà, du coup, voilà, c'est nous qui avons le deuxième.
Donc déjà, il y a la France en elle-même.
À vérifier.
Et les États-Unis.
Mais c'est vérifié, il y a même certains géographes qui
disent... C'est qui le premier ?
Les États-Unis. Mais il y a une baston même avec la France. Hein. Il y a certains géographes qui disent que selon comment on fait les calculs, la France pourrait gagner.
Et le Brésil, tout ça, en Amérique du Sud.
Bah, le Brésil, ils ont qu'un côté, c'est tout petit.
Et puis la France, en fait, elle a plein de petites possessions maritimes partout,
et l'Australie
dans le monde.
Mais c'est minuscule, l'Australie.
C'est juste
l'île. Oui, mais ça fait qu'un tour.
Mais c'est un grand tour.
Que nous, on a plusieurs tours.
Non, mais l'Australie, c'est beaucoup plus grand.
Oui, mais nous, tu rajoutes La Réunion, tu rajoutes Saint-Pierre.
On ferait mieux de croire Pauline sur parole, en fait.
Mais
parce qu'elle a bien lu son livre.
Je l'ai bien lu, j'ai bien fait mes recherches.
Ouais. Elle est même amie avec Bruno sur Facebook.
Ouais, bah oui. Donc voilà, donc, c'est l'histoire, finalement, mon bouquin. C'est l'histoire de ces îles françaises, de ces espaces français à travers le monde. Alors, c'est pas l'histoire de, bah, comme vous disiez, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. C'est même pas Saint-Pierre et Miquelon. C'est des trucs totalement inconnus, dont jamais on a entendu parler. En général, il y a personne là-bas. On peut même pas y aller parce que c'est protégé pour telle ou telle raison. Enfin, c'est vraiment peu de population. C'est...
Saint-Pierre et Miquelon.
Eh ben, on est encore dans plus l'inconnu que Saint-Pierre et Miquelon.
Et le plus petit, du coup.
Ouais, le minuscule, hein, le 70 km de long sur. Donc voilà, c'est vraiment un truc super lointain et qui n'est pas issu. Il n'y a pas une histoire coloniale glauque qui fait que, bon, quand tu lis l'histoire de ces petites îles, t'es pas bien joyeux.
Ah bon, t'as pas un livre glauque cette fois-ci ?
Non, j'ai pas un livre glauque, j'ai un super bouquin.
Il y aura un suicide quand même.
Non, mais.
Rien.
Ça
rien
fait quelques émissions qu'elle a des livres
ouais,
gays, hein, c'est
y
fini
on
ça.
On m'a épargné.
Ah, non. C'est pour l'an prochain ça, la rentrée là. Bim.
Bon, franchement, déjà, avant d'ouvrir le livre, j'étais hyper conquise parce que c'est un super joli livre. Déjà, alors il y en a qui n'aiment pas les accessoires ici avec les bouquins, mais là, c'est un super accessoire. C'est pour la jaquette, on a une carte du monde, style un peu 16e, qui se déplie, qui montre tous les territoires dont il parle dans le bouquin. Donc c'est déjà super sympa. Et dans le bouquin lui-même, à chaque début de chapitre, il y a des jolis dessins d'animaux. Enfin, c'est un style voyage, grande découverte du 16e. Tu sais, tout est mis dans une ambiance où tu découvres. Et en plus, parce qu'on ne parle jamais de la typo, je me suis dit, mais là, la typo est super agréable. Elle est simple, elle est classique, mais c'est vachement agréable
à lire.
C'est
du Garamond, je pense.
Ouais, c'est classique, c'est pas du...
Je pense que c'est du Garamond 14.5.
N'est-ce pas ?
Il y a d'ailleurs une petite coquille sur la deuxième page.
J'ai eu des cours de typographie, moi, monsieur.
Ah ben moi, oui, je connais plus Garamond.
Moi aussi. Salomé aussi, vu qu'elle est en communication.
Mais bien évidemment.
Évidemment.
Voilà, c'est classique, mais ça marche. Et c'est vraiment déjà un beau bouquin. Donc moi, c'était presque gagné d'avance. Et là, à la lecture, mais non, pas aïe. Génial. Parce qu'en fait, il nous raconte toutes ces petites histoires improbables de ces îles. Il nous raconte plein de petits épisodes. La vie des marins qui découvrent les îles. Il nous donne des extraits de journal de bord, de commandants qui racontent la découverte, tu vois. Et des fois, c'est juste des petites anecdotes. Des fois, c'est hyper rigoureux au niveau historique parce que c'est des histoires de débats entre tel ou tel pays. Et donc, on arrive à savoir comment le drapeau français, il s'est retrouvé avec un drapeau planté dessus, cette minuscule île qui fait, c'est ce que je disais, tu vois, 70 km de long. Bon, elle est perdue au milieu de l'océan. Comment la France a pris possession de cette île-là? Pourquoi? Et donc, c'est très... très intéressant, et c'est raconté en plus de manière rigolote. J'ai bien aimé notamment l'histoire des îles Chesterfield, où en fait
Des clopes.
Ouais, j'étais sur le coup de la clope.
Excuse-moi.
Mais non, pas le coup de la clope, le coup du guano. Je sais pas si vous savez ce que c'est, les fientes d'oiseaux super enrichies en...
C'est pour le mettre dans le jardin après.
Voilà, ouais, ça fait un super engrais. Donc au 19e, ils sont à fond sur le guano. Si. Et donc, ils racontent une grosse bataille entre les Anglais et les Français qui se battent pour ces petites îles Chesterfield parce qu'elles sont recouvertes de guano. Et
oui, après tu vas le racler, le guano sec, et après
c'est énorme,
tu le...
c'est
ça fait compost. Un long voyage quand même pour de l'engrais.
Ouais.
Pour de la fiente.
Et surtout qu'il y a eu une grosse arnaque derrière l'exploitation du guano. Finalement, elle était un peu planquée. Il y a eu du noir derrière. Les impôts prévus sur l'exploitation de cette île, on n'en a jamais vu le jour. Donc voilà, c'est des trucs un peu insolites.
Et donc du coup, c'est nous qui avons gagné cette île.
Ouais, c'est nous qui l'avons eu.
Comme elle est fière.
On a failli oublier de mettre le drapeau dessus parce qu'ils arrivent et finalement, ils se retrouvent à...
L'île de la fiente.
On a la fiente, ouais. On n'a rien compris. Les autres, ils vont chercher le pétrole et nous, on a la fiente.
Oh là là. Il y en a une très drôle aussi, je ne vais pas tout raconter, mais voilà, pour vous donner un petit peu envie quand même. On a l'île des Faisans, cette île, donc c'est pas sa taille, mais c'est pareil, c'est un truc microscopique. Et on se l'échange tous les semestres avec l'Espagne, parce qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur à qui ça appartient. Donc finalement, on est arrivé en 1901 à un accord.
J'adore.
Tous les semestres, et ben on échange, la domination revient à l'Espagne, puis à la France.
Et il y a des gens sur cette île qui subissent cette...
Oui, d'accord, non, finalement, c'est des îles où il n'y a personne.
Il y a juste des faisans.
Donc,
C'est génial, ouais.
Ouais.
Il y a beaucoup d'îles, t'as dû découvrir, ouais, du coup.
Ah bah c'est énorme, et il y en a partout dans le monde.
Et on a le deuxième espace maritime au monde.
Eh ben oui.
Mais du coup, est-ce que l'auteur, il s'est renseigné à partir de documents historiques? Est-ce qu'il est allé sur place? Est-ce qu'il a fait les deux? Est-ce que...
J'ai pas fait de
recherche.
Je me suis pas renseignée
là-dessus. Non,
parce que
c'est vrai que...
Je pense qu'aller sur place, ça semble assez compliqué. J'ai l'impression, la plupart du temps, il dit, bon, cette île, aujourd'hui, on n'y met pas les pieds.
C'est pour ça que c'est chouette, en fait. C'est parce que c'est des choses qu'on verra jamais.
Mais ouais,
yeux,
et puis dont on n'entendra jamais parler. C'est vraiment... c'est super sympa. C'est raconté. En plus, il a une façon de s'exprimer. On a vraiment l'impression de lire le journal d'un grand découvreur. Et avec ce petit ton humoristique, mais pas... rien n'est exagéré. Il est vraiment... c'est un régal. C'était extra. Je me suis éclatée. Et ça se lit très facilement, très vite. Et on passe un bon moment.
Moi, ça me donne envie. Ouais.
Bah ouais,
en plus, tu apprends des choses.
Ouais.
En soirée, t'es cool. Hein. Tu peux sortir des anecdotes.
Ah ouais, c'est la classe des trucs.
De la fiente.
<C'est
ça. rire>
Excellent. Tu nous rappelles le nom, auteur et maison d'édition.
Tour du monde des terres françaises oubliées par Bruno Fulini. Et c'est
aux éditions du Trésor.
Ok. Bon. Allez, avant que je présente mon livre, on va faire une pause musicale. Héloïse, tu nous as choisi un titre. Qui est aujourd'hui ?
Oui, c'est un titre du Rocky Horror Picture Show, ce film absolument génial que j'adore, qui s'appelle Sweet Transvestite.
Ok, et Valérie va nous traduire après le morceau.
C'est des bonbons travestis.
How do you do, I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite. I'm transsexual. Transylvania. Let me show you a rhyme, and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie.
I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
Right.
We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry.
Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic.
I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night?
Night.
Or maybe a bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, hey, I'm just a sweet transvestite. Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Oui, Valérie, tu disais.
Moi, Pauline. Rien, c'est Pauline.
Ah, c'est Pauline.
C'est qui me faisait peur.
Alors, il faut savoir que Pauline adore les rillettes au poulet rôti.
Elle le préfère à un certain pâté, même.
Ouais.
Elle a dit qu'il fallait pas le dire.
Non,
rigole.
Pas des choses comme ça.
Alors là, c'est pas beau, ça.
Attends, c'était une petite blague.
Pas balancé, quoi.
Attends qu'on chope les beaux-parents. J'allais donner la parole à Salomé. Non, pas du tout. Héloïse.
Oui. Alors moi, je vais vous parler d'un petit livre qui est, qui est dans la même maison d'édition que celui que tu viens de présenter, donc les éditions du Trésor, et qui s'appelle « Tour de France des villes incomprises ». Voilà, de Vincent Noyau.
Dijon.
Vas-y, donnez des noms.
Allez, Rouen, Dijon, Le Havre.
Melun.
Alors à Rouen, Dijon, il y a quand même une spécialité. À Dijon, il y a la moutarde, c'est connu pour
Melun.
Ça. Melun, je ne sais pas ce qu'il y a.
Vichy,
les Bastilles, Pétain ça, et les
moi,
Thermes.
Moi, je connais quelqu'un qui est fan de Pétain et...
Oui.
Et de pastilles.
Ouais, et que je suis sûre qu'il ira faire un pèlerinage à Vichy après son pèlerinage voilà, là-haut dans le nord.
Je vais vous donner quelques noms de villes et vous allez me dire ce que ça vous évoque.
Allez.
Cholet.
Le basket. Tu rigoles ou quoi?
Cergy.
Pontoise.
Oui, mais ça, c'est le nom de la ville. Vierzon.
T'as voulu voir Vierzon.
On a vu Vierzon.
Verdun.
Mais la guerre.
Toi.
Maubeuge.
Les vacances à Maubeuge.
Maubeuge, génial, j'adore
ces villes. Voilà, donc vous avez tous une petite idée de ce qui se passe dans ces villes, mais ça vous inspire quoi? Ça vous inspire une envie de vacances? Est-ce que ça vous inspire ou
elle
pas?
Elle dit ça, elle
moi,
est à Verdun.
Moi, tu sais...
Ah non, mais moi, j'assume tout à fait, parce que je suis du tout dans le même esprit que ce livre.
Cholet, non.
Ouais, si, pour aller voir un match, en fait.
Non.
Si, puis il y a le jardin des cucurbitacées aussi, à côté de Cholet.
Ah,
je tenais à vous le dire.
C'est bien, mais c'est très bien. Tu as raison.
Très bien. Donc en fait, on est quand même d'accord, c'est pas des destinations qui font rêver la plupart des gens. Voilà.
Non,
le tourisme dédaigne un peu ces villes-là. Personne ne s'y arrête. On en entend rarement parler, à part pour certains faits, voilà, du sport ou une certaine industrie. Par exemple, à Vierzon, les tracteurs. Enfin voilà.
Quelle marque de tracteur à Vierzon?
Alors là, tu me poses une colle parce qu'il ne le met pas dans le livre. Il parle de ces fameux tracteurs verts, mais après, je ne sais pas quelle marque.
Mm-hmm.
Voilà.
Parce que sur la couverture, on dirait un John Deere. Mais sauf que John Deere,
oui,
c'est à Chicago.
John Deere, c'est américain. Ah, ouais.
Laissez Salomé, doit savoir, elle vient de SOG.
Non, pas du
Non, tant pis.
Ah,
qu'est-ce qu'il y a, Audrey?
Audrey, attends.
Non, mais Audrey, il faut lui donner un micro là. Si, si, Audrey, vas-y.
Audrey, le nom du tracteur
sûr, mais je pense que c'est des Fendt.
D'accord.
Parce qu'ils sont verts.
Ok. Alors,
d'accord, c'est très
merci.
Bien, Audrey.
Ouais,
c'est
très bien, merci, Audrey.
Parfait, merci.
Bravo.
Donc, en fait, l'auteur Vincent Noyau, c'est un journaliste de voyage, c'est-à-dire qu'il est payé pour découvrir des endroits fabuleux, les plus beaux du monde. Un jour, il en a eu un peu marre, et il a de cette simplicité-là, d'aller toujours au plus beau, au plus design, au plus tendance, etc.
Ouais, c'est clair.
Donc, il s'est dit, j'ai besoin de simplicité, d'originalité, et j'ai vraiment besoin de découvrir des lieux qui sont un peu délaissés par mes confrères, mais aussi par les touristes du monde entier. Donc, il l'explique d'ailleurs très bien dans la préface, je vais vous lire un petit passage, parce qu'il a un style assez... Enfin, il est très sympa, c'est très drôle, il a vraiment un bon style en plus, cet auteur. Donc, les voyageurs n'ont aucune imagination. Ça commence comme ça. À côté de ça, en France, des villes sont purement et simplement ignorées. Châteauroux, Bar-le-Duc, Montluçon, Nevers, elles sont là quelque part sur une ligne de chemin de fer, au bord d'une route départementale, mais personne ne s'y rend. Le monde entier les dédaigne. Il en a toujours été ainsi. Alexandra Davinel n'est jamais entrée clandestinement en Haute-Savoie. En Haute-Saône, pardon. Joseph Conrad, qui a tant écrit sur les mers du globe, n'a pas pondu une seule ligne sur le plan d'eau de la Ferté-Bernard. Voilà. Et donc, il a choisi 12 villes en France qui ont mauvaise réputation, qui ont soit été touchées par une crise industrielle, soit par la guerre, qui sont des stations thermales un peu abandonnées, il y a été hors saison, etc. Donc, il a choisi vraiment des endroits qui ne font pas rêver. Et le résultat, voilà, c'est 12 petits textes très touchants, très drôles, à la recherche de l'attrait, en fait, de ces villes qui existent bel et bien, parce qu'il y a, il trouve, voilà, notamment avec les habitants, quelque chose de très touchant. C'est vraiment au cœur de l'attrait de ces villes. Je veux dire, c'est les habitants qui y habitent et la sympathie qui émane de ces gens. Et la fierté aussi qu'ils ont pour leur ville et l'incompréhension aussi face à une espèce de dédain latent. Et voilà, il y a toujours des petites pépites d'histoire, de gastronomie, de monuments. Il y a toujours, de toute façon, où qu'on aille, il y a quelque chose à voir. Et donc, je vais vous lire un petit extrait quand il parle de Mulhouse. Mulhouse, qui est une ville alsacienne, je ne sais pas si vous connaissez un peu.
Ah, c'est allemand, non?
Non. Enfin, ça l'a été à un moment, je pense.
Ah, mais ça ne l'est plus?
Ça ne l'est plus, non.
Je croyais.
Oh, non.
Donc, c'est en Allemagne et c'est une ville, en fait, en Allemagne. Oh, merci, Valérie.
Je viens de le lire. Hein.
Mais Mulhouse, c'est en France. C'est pas en Allemagne, Mulhouse.
Non, Mulhouse, en Alsace, et qui a un passé industriel.
Mais l'Alsace, c'est ça.
Mais l'Alsace, c'est français?
Je sais pas,
hein, je suis pas sûre. Hein.
Ah non, arrêtez. Hein. Je suis un quart alsacienne, on se tait. Hein.
T'as le droit d'être un quart allemande. C'est
un
pas...
quart alsacienne. Ouh, il y a eu des histoires...
Agnès, si tu nous écoutes.
Oui.
Ah oui, bah, elle est blonde aux yeux bleus, maman.
Ah oui, c'est vrai.
Donc Mulhouse, qui a un passé industriel assez lourd et donc qui maintenant est une ville un peu délaissée. Voilà. Donc il manque l'essence même de la bonne ville alsacienne. Les maisons à pans de bois, les géraniums au balcon, les cigognes sur les cheminées, les cholis, canaux, un parfum de choucroute, enfin tout le sympathique folklore qui fait le bonheur des journaux télévisés sur les coups de 13 heures. Mulhouse, c'est d'abord un grand bras d'honneur à Jean-Pierre Pernaut.
Boum! Pourquoi? Voilà.
Oui, mais Mulhouse, le marché de Noël, tout ça, su quand même.
Bah, ouais. Les marchés de Noël en Alsace, oui, c'est très présent. Mais c'est vrai que Mulhouse, c'est pas la ville alsacienne qui fait le plus rêver.
Ouais, c'est vrai,
voilà.
Est-ce que tu as envie d'y aller dans ces villes après avoir
mais
lu
après,
cet
voilà,
ouvrage?
Après, voilà, tu as vraiment envie d'y aller. Après, vous vous doutez que ce livre m'a énormément plu parce que, comme tu disais, Valérie, vous connaissez un peu mon mode de vacances. Moi, je suis partie à Châteauroux dernièrement, au Mont d'Or hors saison, et dernièrement à Verdun lors de mes dernières vacances. Donc, c'est vraiment un livre qui m'a extrêmement touchée parce que c'est ma façon de voyager aussi.
Si vous voulez voir Héloïse, elle est à Cergy cet été.
Ouais,
Cergy
Pantoise. Elle a terminé à Cognac. Donc.
Mais du coup, je peux que me joindre à la bonne parole que ce livre essaye de distribuer et vous inciter à, même si c'est pas votre destination première, mais à vous arrêter sur le chemin dans ces villes qui sont un peu oubliées et dénigrées, parce qu'il y a toujours des petits trésors et des petites pépites à découvrir dans ces endroits-là, voilà. Et notamment les gens qui y habitent.
Les Vierzons, hein.
Ouais.
Et ouais, mais il faut se forcer.
Bah, tant Cannes ou Vierzon...
Mais Cannes, c'est nul, de toute façon.
Bah oui, c'est pour ça, il y a plein de
monde. Non, c'est plein de surprises et c'est original, ce genre de destination.
Oui, voilà. C'est vrai.
Mais il faut lire le livre avant.
Essayez de le lire et découvrir aussi vos villes, parce qu'il n'y en a que 12 là, mais il y en a plein en France aussi.
Parce que moi, le Nord, pour moi, est en dessus de Clermont-Ferrand, donc tout est au Nord.
Alors non, elles ne sont pas toutes dans le Nord, il y a aussi Saint-Nazaire, par exemple.
Saint-Nazaire
dans le Nord. Oui, mais pour toi, c'est dans le Nord, ça, Saint-Nazaire.
Ah oui, Saint-Nazaire, c'est chez moi.
Saint-Nazaire,
c'est à côté de Nantes, là où il y a les chantiers. Oui, c'est le Nord, pardon, Héloïse. C'est au Nord de Clermont-Ferrand.
Alors, non, c'est dans le Sud, je ne sais pas. Draguignan.
Ah oui,
Draguignan. Pardon. Draguignan.
Ah, ouais.
C'est chouette, Draguignan.
Ouais. Oui, c'est chouette. Ouais.
Mais
ils trouvaient que c'était une ville. Bon.
Ah bon? Pourtant, il y a plein de choses à faire là-bas.
Bah oui. Comme?
À Draguignan? Mais tu vas à la mer?
T'es un peu loin quand même.
mais écoute,
nous,
dit, tu vas en voiture ou pas?
Quand on va dans le sud, on va pas à Draguignan.
Ouais,
je peux vous le dire.
Tu pousses 20 bornes plus loin et tu vas à la mer.
Tu vas où du coup?
Tu vas à Aix. Aix-en-Provence.
Ah bon?
Ouais.
Vas-y, parlez.
Non, non, vas-y, tu finis de lire ton livre.
C'est à qui?
Mais c'est le mais en fait, il n'a pas commencé à lire son livre, donc il est en train
je
de faire.
Je viens de me rappeler que je voulais parler d'un truc.
Wikipédia.fr.
Je ne l'ai pas noté, donc. Ok, allez, on va.
Donc, sans transition, Ludovic,
voilà.
Ton livre.
Donc voilà, Tour de France des villes françaises incomprises de Vincent Noyau aux éditions du Trésor.
Et
très chouette.
Les éditions du Trésor, du coup, c'est ce genre de livre de voyage?
Oui, il n'y a que des livres de voyage, de découvertes un peu originaux quand même, qui n'existent pas forcément. Et donc, c'est une très chouette maison d'édition qui est toute jeune et qui fait des choses très, très sympas.
D'accord.
Ok. Alors que moi, on m'a filé Paillot Voyageur.
Moi aussi, c'était un Paillot Voyageur.
Paillot Voyageur, c'est vraiment la collection de voyages dans le monde de l'édition française. C'est vraiment quelque chose, une référence. Quoi.
Donc toi aussi, t'as une
forcément,
fiction.
Forcément, on a deux titres.
Et non.
T'as pas une fiction?
Eh non, ma pauvre. Oh. Non, j'ai pas du tout une fiction, bien qu'on pourrait penser que ça le soit en lisant ce livre. Car c'est un livre de Stéphane Hors qui est de nationalité
iranienne.
Cheval.
Non. C'est pas mal, cheval. Qui est allemand. Qui est allemand.
Ouais. Bah alors
bah oui, Mulhouse.
Un cousin.
Qui est allemand, qui est un journaliste allemand, qui est rédacteur de voyage, qui a couvert d'ailleurs plus de 50 pays différents pour Spiegel Online, alors c'est un site web d'information allemand, donc vous ne le connaissez pas, c'est normal. Mm-hmm. Si vous le connaissez, peut-être, mais il y a un problème. Je ne comprends pas vos vies extra-travail. Depuis 2008, il se balade et il écrit des livres sur ses voyages. Il est reconnu pour ça. Il est allé une première fois en Iran, car ce livre s'appelle « Derrière les portes closes ». Il y est retourné pour écrire ce livre. Alors, c'est un adepte qu'on va chez Jean,
quand tu dormais sur le canapé.
Tu dis quoi?
Couchsurfing.
Du couchsurfing, parce qu'il en fait depuis 10 ans. Alors, il faut savoir qu'en Iran, c'est plus ou moins interdit de faire ça. Il écrit ce livre à la rencontre directement des Iraniens. Alors, j'ai choisi ce livre, quand Héloïse l'a proposé, pour deux raisons. Premièrement, j'ai un ami qui est parti faire le tour du monde sur un an, qui est revenu 3 ans après et qui m'a parlé énormément de l'Iran, me disant que c'était un des plus beaux pays qu'il avait visité en vélo. Donc il m'a raconté plein d'histoires rocambolesques dans ce pays quand même où c'est une dictature religieuse, hein, il faut le dire, mais avec des gens qui sont quand même libérés, sauf qu'ils n'ont pas le droit de le montrer. D'où le titre « Derrière les portes closes », parce qu'on fait ce qu'on veut derrière les rideaux cachés, etc.
Oui, puis c'est un pays surtout qui a connu la liberté. C'est pas un pays qui s'est libéré dans le temps. C'est un pays qui était libre avant. Hein.
C'est ça. Ouais. Et après, c'est un pays qui est extrêmement dur quand on parle de politique, de religion. Et d'un côté, après, les Iraniens peuvent faire des choses. Par exemple, il y en a qui créent des clubs sadomasochistes. Alors, le pouvoir le sait, mais laisse plus ou moins passer. Et ce même club parlerait de religion, de politique, ça ne passerait pas. Donc, c'est l'ambiguïté de ce
pays.
Oui,
tant que ça ne se voit pas, ça reste...
Et tant que ça ne parle pas de religion, de politique, qu'on laisse le pouvoir à l'ayatollah, et etc. Et deuxième point, j'avais vu un reportage télé, justement, sur une famille française. C'est marrant, à chaque fois que c'est moi qui présente le livre, vous en profitez pour manger, pour boire, pour vous faire des signes, et personne ne m'écoute.
Mais on t'écoute.
C'est terrible. Moi qui ai galéré à lire ce livre pendant des semaines et à préparer une fiche de lecture.
C'est qu'on hier est soir tard. On répond pas, on est bouche bée parce que l'Iran, enfin, je veux dire, c'est un pays qui a très bonne réputation au niveau voyage.
C'est ça. Et deuxièmement, j'avais vu un reportage TV sur une famille qui était partie faire le tour du monde en camping-car avec 3 enfants en bas âge, 7, 8 et 10 ans. Alors oui, non, ça paraît ridicule ce que je racontais. C'était sur France 2 ou TF1, enfin bref. Et à la fin de leur voyage, ils ont dit à leurs enfants, mais voilà, il nous reste 2 semaines de plus de congés. Où est-ce que vous aimeriez qu'on retourne sur tous les pays qu'on a fait? Ils ont choisi également l'Iran. Et la famille est retournée en Iran. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Et c'est extrêmement intéressant. Donc l'auteur, en partant dans ce livre, dit... le but de mon voyage est l'assimilation. Dans les semaines qui viennent, moi, l'occidental aux cheveux blonds, je veux devenir un Iranien, au moins un peu. Et j'oubliais, un mariage est également au programme. Ma to-do list peut donc se résumer ainsi. Découvrir des secrets, devenir un Iranien, me marier, sortir vivant d'ici. Voilà, donc il se fait arrêter, il a des photos compromettantes, il peut pas, on ne peut pas aller chez l'habitant, c'est mal perçu qu'on vient de l'étranger, parce qu'on peut se raconter des choses, on peut fomenter des choses. Et en fait, ce livre montre la liberté de tous ces Iraniens cachés derrière le pouvoir. Donc c'est une, finalement, c'est une fausse liberté. C'est des gens qui vivent avec rien. Il y a certains Iraniens dans ce livre qui expliquent que ce n'est pas un peuple de combat. C'est-à-dire on va vivre avec ce qu'on a, mais on ne va pas chercher à aller plus loin. C'est pas dans la mentalité. Et c'est bien sûr des gens extrêmement abordables qui ont le cœur sur la main. Mais il y a toujours ce contexte extrêmement dur derrière, avec ces services secrets qui sont réputés comme être les meilleurs services secrets du monde, qui sont toujours derrière. Et on raconte une histoire de jeunes qui font une vidéo de danse sans voile, sans rien. Voilà, et qui sont attrapés. Mais bon, ils s'en fichent parce qu'ils prennent 95 coups de fouet, ils prennent 3 mois de prison. Mais voilà, ils voulaient montrer qu'on peut être heureux en Iran, qu'on peut s'émanciper. Et donc voilà, c'est cette ambiguïté entre ces gens qui
Mais c'est vrai qu'on voit pas mal de vidéos sur YouTube, etc., de jeunes Iraniens notamment qui font de la musique. Oui. C'est vrai que ça a l'air d'être un pays de résistance, mais de résistance cachée, on va dire.
Et c'est ça, oui. Et donc, il raconte, on arrive à l'aéroport, on voit les photos de l'Ayatollah Khomeini et celui d'avant dont j'ai perdu le nom, qui était peut-être encore plus dur que le premier. L'auteur dit à chaque fois qu'il va dans un endroit, il les voit partout, quoi. Il voit partout ces photos. Donc, il y a des images, il y a des photos dedans, il y a quelques conseils aussi. Voilà comment manger à table avec les Iraniens, que faire pour traverser une route. Alors voilà, pas prendre les passages piétons, c'est un piège. Il faut prendre, voilà, quand il y a un espace pour passer, traverser la route, il faut le prendre, sachant que la voiture ne va pas s'arrêter. Donc il faut, quand on marche, il faut marcher, il faut prendre le rythme des Iraniens, baisser la tête à 85 degrés. Enfin voilà, il explique tout ça, donc c'est assez drôle. C'est quand même quelque chose d'assez drôle.
Mais du coup, Ludo, est-ce que c'est possible pour tout occidental de se dire, je vais prendre 15 jours et je vais en Iran facilement, tu vois? Est-ce que ça peut être une destination facile à aborder quand même ou pas?
Ben, apparemment, oui, sur les expériences de mes amis qui sont allés, sur ce que j'ai vu, sur ce qu'on raconte, c'était en 2014, c'était il y a 2 ans. Donc ça n'a pas vraiment changé. Oui, c'est possible. Après, voilà, on sait qu'il y a certaines règles à respecter, pas faire n'importe quoi. Voilà, lui, c'est un peu, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Je sais pas si le coach, comment on dit, Pauline ?
Couchsurfing.
Le couchsurfing, c'est quand même l'idéal. Voilà, si on reste dans les clous, après, on peut quand même aller voir autre chose, connaître les gens et faire partie. Voilà, il montre quand même que c'est des gens qui sont quand même libérés. Je voulais vous lire un passage que j'ai adoré.
Mais tu l'as perdu.
Qui est celui-là? Alors, voilà. Mon guide précise bien que les services de délivrance de visa prennent parfois la peine de le faire. Pour me détendre, je fais un tour au bazar. Chercher à décrire un bazar oriental, ce serait comme apporter des graines de cumin dans la ville de Kerman. Pour résumer, beaucoup d'échoppes, beaucoup de marchandises, beaucoup de parfums et de vendeurs. Et aussi, en l'occurrence, une magnifique maison de thé aménagée comme un ancien hammam. Odeur de narguilé, jet d'eau, colonne ornementale. Voilà, il décrit vachement bien quand même. C'est un bon écrivain. Et après, il y a tout le côté qui est assez drôle. Derrière les portes closes, Stéphane Horst, c'est chez
Payot.
Payot Voyageur.
Payot. Merci.
Eh bien, de rien. C'est avec plaisir que je l'ai lu. Ça allait, Salomé, mon explication de texte?
Parfait.
On a travaillé un peu dessus. Je vais montrer comment préparer une émission. Voilà. Ok, Valérie.
Oui, je m'essuie les mêmes.
Mais si tu veux encore finir, couper ton saucisson, je vais donner la parole à Héloïse.
Je vais vous parler d'un super livre.
Au super nom, vas-y.
Allô, og velkomming til Island.
Ah.
Bonjour, bienvenue en Islande. Rendez-vous à Kirkjubæjarklostur. Revenons d'abord sur ce nom un peu barbare, titre du livre imprononçable, qui à la fois, une fois décortiqué, devient beaucoup plus limpide. Kirkju, église, Bajar, ferme, clôture, couvent, cloître. J'ai pas su si c'était couvent ou cloître, il y a deux traductions différentes.
Oui. Ça revient au même. Hein.
Donc vous comprendrez que c'était une ville où il y avait une église, une ferme, un cloître. D'où le nom de Kirkju, Bajar, clôture.
Bravo.
Ça fait 15 jours que je m'entraîne.
T'es entraîné,
n'est-ce pas? Jadis appelé Kirchbaer, on lui a ajouté le suffixe Klaustur en 1186 après la fondation d'un couvent de bénédictines. Est-ce que j'arrête là pour la description?
Moi, j'aime bien.
Ouais, moi, j'aime bien aussi.
L'accent, tu l'as eu là.
C'est pas mal. Mais j'envisage très sérieusement de partir vivre en Islande, donc je me renseigne.
Moi, j'ai envie d'y aller en Islande aussi.
Mais moi aussi.
Toi aussi. T'as vu, ils ont fait match nul, hein, Islande.
Mais c'était super ce but là, ouais, inattendu. Énorme. En plus, c'était tellement beau ce viking là.
Ouais. Quel sport. Et 100 joueurs professionnels. C'est-à-dire que tu viens en Islande, tu deviens joueur professionnel, t'as 2 chances sur 10, parce qu'avec les remplaçants, d'être dans l'équipe nationale. C'est énorme.
Et tu as vu tous les Islandais dans le stade?
Ouais.
C'était je sais pas combien de la population, mais c'est
hallucinant. Ils sont 300 000, je crois. Ouais. En Islande,
ah, bah c'est beaucoup plus qu'à Kirkjubæjar Klostur, parce qu'ils ne sont que 120 à y vivre.
Ah.
Cette ville existe 120 à peu près, dernier recensement de 2011. Donc venons-en au livre de Vincent Tolomé, auteur-performeur, comme il se présente lui-même, et c'est vraiment une performance littéraire. J'avais jamais lu quelque chose comme ça. Son livre, Kirkjubæjar Klostur. Alors, vu que ça fait une semaine que je m'entraîne, je vais vous le redire plusieurs fois. Vous le trouverez au rayon poésie. Alors, plus qu'une poésie, puisque c'est... pour moi, une poésie, c'était quelque chose de très... des vers, des alexandrins, des alexandries, alexandra... Enfin, des choses plus... comment dire, avec, qu'on peut expliquer. C'est-à-dire qui vont avoir une sonorité, qui vont résonner à l'oreille, qui vont faire rêver... là, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre. C'est vraiment une performance littéraire. En islandais, comme le nom du livre, Kirkjubæjar Klostur, les mots sont agglutinés les uns aux autres pour préciser le mot et donner un contexte. Du coup, Vincent Tolomé, il nous a fait son texte avec des phrases très minimalistes où on enlève tous les mots superflus. Ça ressemble donc à un télégramme. Et on va rajouter au dernier mot du télégramme, sur la phrase d'après, un autre mot pour préciser le lieu, pour préciser ce qu'on a envie de faire passer. Et c'est très perturbant, parce que les phrases sont donc incomplètes. C'est que des petites phrases toutes minuscules. Voilà, un télégraphe...
Je donne un petit exemple.
Ouais, mais j'ai noté quelques...
Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là?
Non, non, mais alors, mais c'est super bizarre.
Très beau.
Les personnages, en fait, tous les personnages qui ont un rôle identique, ils vont avoir le même nom. Les policiers, ils s'appellent John. On s'en embête pas. T'es policier, t'es John.
C'est bien ça.
Voilà, t'as John l'amoureux de Tora ou t'as John le non-amoureux de Tora. Il y a 2 policiers dans le texte. Les Birgit, c'est les mères. Voilà, tu es mère, tu t'appelles Birgit. Donc Tora, ce sont les femmes mariées, par exemple. Et après, on va rajouter donc un complément d'objet direct pour qualifier la personne avec qui l'on parle. Sven, les étrangers s'appellent Sven. Et là, en l'occurrence, le personnage donc principal de notre livre, c'est Sven Nigaudmedu. Voilà.
C'est bien.
On parle aussi souvent de John, l'amoureux de Tora, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, comme vous l'aurez compris, rien que déjà pour la forme du livre, ça vaut le détour, parce que ça secoue, hein, c'est comme l'Orangina, secouez-moi. Donc, une fois qu'on a imprégné du style, qu'on a bien compris que ça allait durer pendant tout le livre, cette façon de lire, ben, on peut se mettre à essayer de comprendre l'histoire. Donc là, une deuxième lecture s'avérera nécessaire. Donc on va suivre l'histoire de ô combien perché de ce Sven, touriste, donc je vous rappelle Sven Nigaudmedu, qui va être abandonné par certains habitants de Kirkjubæjar Klostur au milieu de la lande. Donc il faut savoir que la lande autour de Kirkjubæjar Klostur, non mais si on a un Islandais qui écoute, c'est hyper important, j'envisage vraiment d'aller là-bas. Donc il est abandonné au milieu de la lande. Il faut savoir que cette ville, en fait, c'est vraiment un point de ralliement indispensable parce que elle est composée d'une supérette, d'une poste, d'un hôtel. C'est vraiment une ville minimaliste, mais indispensable à la vie de la campagne autour. Donc elle est au milieu de cette lande hyper dangereuse. Et ils vont abandonner Sven Nigaudmedu dès le départ du livre.
Et pourquoi?
Mais justement, ça, il faudra le lire pour pouvoir le voir. Sinon, il n'y a plus aucun intérêt de le lire.
Ah si, dis-nous pourquoi. Ah,
non, il ne faut pas que vous sachiez. Parce qu'en fait, on part sur le départ, il est abandonné. Et après, on revient en arrière et on va jusqu'à une explication.
Pourquoi.
Voilà. Donc, c'est vraiment bizarre à lire. C'est déroutant. Et du coup, ça va très, très vite quand on lit. Parce que les phrases sont très courtes. Elles sont hyper rapides. Moi, j'avais l'impression que c'était quand je le lisais, j'avais l'impression que c'était Grand Corps Malade qui était en train de me le lire à fond. Grand Corps Malade sous Exta qui était en train de me lire.
Je
ne
sais pas si c'est bien ou pas bien, du coup.
Non, 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 si, parce que c'est super court. Il n'y a pas de superflu.
Enfin, Grand Corps Malade sous Exta, ça doit être dur.
Et bien, justement... Parce que du coup, ça donne une consonance vraiment particulière au livre. Et c'est... moi, j'avais lu les 20 premières pages, j'avais l'impression d'en avoir lu 100. J'étais essoufflée.
J'aime pas ça.
Non, non, si. Il te faut essayer, c'est vraiment... T'as jamais lu quelque chose comme ça. Ça n'existait pas avant. C'est une performance littéraire. Un extrait.
Ouais.
De sorte qu'on est, maintenant, ailleurs, qu'on nous laisse, nous, là-bas, tout en bas,
Kirkjubeiler Kostur. Connais, nous, des heures plus tard. Ferme du lac, d'abord. C'est Sven, Nigo de Médeux, qui arrive là. Ferme du lac, avant qu'on voit. Camions et voitures noires se perdent d'ailleurs. Un peu, sur ça, plateau sans route. Voilà, et c'est que
mais
ça,
c'est un scandale.
que ça.
Mais qu'est-ce que c'est ça, voyons.
Ben, c'est une performance, c'est effectivement.
C'est hyper
oui.
dur à lire au départ. Mais une fois que t'as chopé le truc, que t'as compris que les phrases, elles ont un sens
une
l'une avec l'autre.
Une fois que tu deviens épileptique, que t'as les yeux qui
clignent. Alors si tu le lis avec un stroboscope, tu meurs.
Mais tu, ouais, l'as, tu l'as fini, Valérie.
Je l'ai enfin, fini.
Ouais, ouais. Et t'as aimé ou pas?
La deuxième lecture, oui, parce que la première
tu l'as
lecture,
lu deux
parce
fois.
Qu'en fait, il est court. Hein. Le livre est en taille normale.
Deux fois, non,
mais écoute, j'avais pas compris l'histoire Pauline, le premier coup.
C'est qui ton ami là? C'est sûr que tu la fréquentes?
Non, parce qu'en fait, il y a deux livres. Là, il y a Kirkjubeiler Kostur, suivi de John Cage Experience. Là, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était. Hein. Mais donc, c'est pour ça que je vous parle.
John Cage, musique expérimentale.
Ouais, mais là, c'est de la littérature expérimentale. Ouais.
Voilà, non, mais ça prend.
Il y a une suite logique, mais c'est pas voilà. Et c'est vraiment une performance. Donc, alors moi, je l'aurais peut-être pas mis dans la poésie. Je sais pas, je l'aurais peut-être mis dans le rayon philo, mais
est-ce que ça fait voyager ou pas?
Ah oui, ça donne envie d'aller voir Kirkjubeiler Kostur. Ça donne envie d'aller en Islande vraiment, parce que quand elle te raconte un petit peu la langue de tout ça, mais là c'est plus l'histoire du personnage de Sven Nigo de Médeux. Enfin,
et raconte-nous, on le lira pas.
Mais si, il faut essayer. S'il y a une personne qui veut le lire, je peux pas le raconter, ne serait-ce que pour cette personne qui aurait envie de le lire.
C'est vrai, c'est beau.
Voilà, c'est ça.
Et elle a vachement bien travaillé avec. Hein, vous avez vu dans son texte les blagues, tout ça.
Vous les avez pas senti passer, vous avez pas ri.
C'est
pas qu'elles étaient fines.
Voilà. Et c'est un beau livre. Et une maison d'édition. Ouais. Non, c'est vrai.
Et je pense que c'est voilà ça.
Tu sors le livre, tu sais parler en morse.
Ça, c'est ça. Sur le moment, je t'avouerai que quand j'ai lu la première fois, enfin, je me suis arrêtée, comme je te disais, à la page 20, j'étais épuisée. Je me suis dit, mais il veut en venir où? J'allais arrêter parce que j'avais un troisième livre sous le coude. Je dis, bon, c'est pas grave, je le laisse tomber. Et j'ai lu la préface, chose que je fais jamais, où il t'explique un petit peu. Enfin, c'est pas l'auteur, c'est un collègue à lui dont j'ai oublié le nom. Qui t'explique pourquoi, comment il a écrit, dans quel but. Et bien là, après, tu reprends ton texte, t'acceptes l'écriture, et ça se passe déjà beaucoup mieux.
Et du coup, il a été en Islande, l'auteur, ou pas du tout?
J'en ai absolument aucune idée, je suis même pas sûre qu'il y ait foutu les pieds.
Dans la préface, d'accord.
Ouais, non, il fait de la racontouse, hein. je pense qu'il bluffe. Hein. Je pense qu'il bluffe. Mais c'est, voilà, c'est pas... tu vois, sur le quatrième de couverture, ils disent à un moment donné... il parle des lents abandonnés dans la lente, désolé. Son errance furieuse et ridicule l'amènera à croiser sur sa route une nuée d'oiseaux philosophes. Bon, moi, au départ, j'avais pas forcément repéré que les oiseaux étaient philosophes. Hein. Ils les appelaient Olaf. Pour moi, Olaf, c'était le bonhomme de neige dans la Reine des Neiges. Donc, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont... voilà, c'est pas... première lecture, c'est pas tout évident. C'est pas le livre que tu vas mettre dans ta valise pour partir en vacances.
Mais... À Cergy, à la limite.
Hein, si à Cergy, ouais.
Tu prends celui-là,
ouais,
quoi.
Ouais. Ou à Melun.
Ouais.
Ouais.
Allez, rappelle-nous le titre, s'il te plaît.
Ça s'appelle Kirkjubeiler Kostur de Vincent Tolomé, suivi de The John Cage Experience, littérature expérimentale. Ça peut être lu. Moi, j'ai pas été au bout de The John Cage Experience.
Ok, merci voilà. Valérie, génial.
Merci, ouais.
Allez, dernier livre de cette année, Héloïse. Oh.
Oui, alors
en fait, d'avoir le
ça va être
livre.
Très court. J'aurais dû finir par un des deux premiers. Si c'est très important de finir par un dernier livre.
Non,
mais je pourrais parler de Joël Batz, gardien de ma vie, si.
Oui, d'accord, ok.
Un truc important.
Ouais. Non, parce qu'on va revenir mardi pour la fête de la musique. Où on pourra revenir sur nos coups de cœur de l'année, etc. Mm. On va pas passer que de la musique. Hein. Bon, on peut parler de livres un peu.
Attends, oui.
Ou pas.
Donc, j'ai parlé d'un livre qui s'appelle Le jeu du monde, carte à Yanni, d'André Velter. Et c'est chez Gallimard, dans une collection qui s'appelle Le sentiment géographique. C'est une très belle collection qui sort très peu de titres par an, mais à chaque fois, c'est quelque chose d'absolument beau et aussi un peu expérimental, moins que je ne dirais pas.
Kirkjubeiler Kostur. Non, mais je me mets à l'islandais, donc.
Nettement moins que celui-ci, mais c'est une vraie réflexion sur tout ce qui est effectivement le tourisme, la géographie, les voyages. Donc, c'est une très belle collection. Et donc là, c'est André Velter, qui est un auteur de poésie, notamment. Qui en fait depuis qu'il part en voyage, il écrit des cartes postales à son ami Yanni, et c'est tout simplement le recueil des textes de ces cartes postales. Juste le texte, il y a pas le visuel ou quoi que ce soit. Juste il lui écrit une carte postale et à chaque fois c'est très poétique. Et donc ça dure sur un peu plus de 10 ans quand même. C'est un très beau recueil. Et je vais vous lire notamment une carte qui date du 27 septembre 2002 à Bruges.
Salut, et tu...
Pour donner une idée du niveau des cartes, quoi. C'est pas les cartes que j'envoie, moi.
Elles sont sympas, tes cartes. Ne les sous-estime pas.
Monter d'un souffle les 366 marches du beffroi pour voir d'en haut le labyrinthe des canaux et chercher mon reflet plutôt dans la course des nuages qu'au miroir frémissant des eaux. Il y a dans cette cité prospère une magie, une mélancolie, une lumière toujours changeante qui annonce une migration prochaine, comme si l'âme ici commençait à jouer seul son jeu, à s'évader un peu. Voilà, donc le niveau des cartes est assez ouf, mais...
Il commence pas comme moi, hein. Moi je dis toujours, salut, il fait beau, il fait chaud.
Mais c'est vrai, mais en fait, quand tu lis, c'est vrai qu'il y a toujours le code quand même de la carte postale, c'est-à-dire tu parles du temps, tu parles de ce que tu fais, tu dis qu'il y a une bonne ambiance, enfin il y a toujours...
Génial, ouais.
Même s'il écrit de façon beaucoup plus élevée que nous, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a toujours le code de la carte postale. Et moi, je suis une grande fan du fait d'écrire des cartes postales et d'en envoyer quand on part en vacances. Et je voulais parler de ce livre pour inciter tout le monde à en écrire parce que c'est quand même quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Vous le savez, quand on en reçoit. Et
on a reçu le message.
C'est vraiment un beau geste qui se... Non, mais c'est un beau geste qui se perd, en fait, je trouve, d'envoyer une carte. Et c'est dommage. Voilà.
Surtout avec un petit tampon.
Tu as totalement raison. Ouais. Ouais.
Cette dernière que j'ai reçue, elle était d'Héloïse.
Moi aussi.
Toi aussi.
C'est vrai. Ouais. Et ouais, ok.
Voilà, c'était assez court, mais c'était pour parler aussi du fait de...
Donc n'oubliez pas d'envoyer vos cartes postales cet été à la Lorraine.
Non, mais
rue
de
Laurent, moi spécifiquement.
Ah ouais, on va faire un appel.
Non,
Rue d'Angirin. L'Orange, c'est le bar à côté, l'ancien bar.
Et oui, Valérie a quelques problèmes.
Oui, je croyais que ça s'appelait l'Orange, parce que c'était rue de l'Orange. Oui, rue d'un gérant. Pardon, à cause du lavoir d'un gérant.
Ah oui, mais tout le monde envoyait des cartes.
Ouais.
Voilà, tous ceux qui aiment cette émission envoyaient des cartes à la lorgnette.
Donc quel numéro ?
7 rue d'un gérant.
Tu mets la lorgnette rue d'un gérant, ça arrive. Ouais. Je suis sûr que même si tu mets la lorgnette à côté du casino, ça arrive aussi.
Envoyez des cartes à vos amis, à vos grands-parents, à vos parents, voilà, ça fait toujours plaisir.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore en recevoir.
Moi, j'ai une frigo de Philippe Pétain, une aquarelle de Pétain.
Oui.
Ah bon ? Pourquoi ?
J'ai été à Verdun.
Ah oui ! Ah, moi, j'ai reçu un pâté. Elle m'a envoyé comment faire le pâté lorrain. Voilà. C'est bon, ça. Ok. Merci, les filles. On a passé une super année ensemble.
Ouais.
Oui, c'était chouette.
Ah, on se voit de façon mardi pour la fête de la musique. On ne sait pas l'heure. Ce sera peut-être un peu tard parce que nous, on n'est pas
pressés.
On
n'est
pas des couche-tôt.
On n'est pas des couche-tôt. Et après, en septembre, on repart.
On recommence, ouais.
Hein, Pauline ?
Oui.
Ok. Bon, mais s'il y a Pauline, alors c'est bon.
On pourra lui donner les
livres. Ok. Merci, Salomé, d'avoir participé activement à cette émission. J'y penserai pour ton rapport de stage. Merci aussi, Audrey.
Mais pour la précision sur le tracteur.
Sur le tracteur, n'est-ce pas, qui est de quelle marque, rappelle-nous?
Fend.
Fend.
Il me semble que c'est plus clair, le verre de Fend.
Je pense
non,
aussi.
Non, c'est le verre de classe.
Ah oui, c'est le verre.
Oui, c'est ça. Après, peut-être qu'il est sale et donc il est moins... Ok, et allez, et comme dirait Valérie...
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Quarante-huit FM.